Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Cinérama.
Oui.
Cinérama.
J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test. Blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour, c'est Cinérama, 30 minutes pour parler de cinéma. Et puis, eh bien, toi, Sophia, tu as vu un film qui va nous donner l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Mathieu Kassovitz.
Oui, il donne la réplique à Yvan Attal dans Frères, le dernier film d'Olivier Cassas.
Et toi, Guillaume, tu nous amènes en Grèce?
Oui, avec L'échappée d'Anthony Chen.
Et toi, Manu?
Je vous amène dans un tribunal, on peut dire ça, avec Première Affaire, un premier long métrage, et puis L'île de Damien Manivelle.
Moi, je vous parlerai d'un film d'animation qui s'intitule Skydome 2123, mais nous commençons avec une affaire pénale doublée d'une histoire amoureuse. Première Affaire est le récit d'apprentissage d'une jeune avocate. C'est parti pour Cinérama.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Les policiers vous ont placé en garde à vue pour vous interroger dans le cadre d'une enquête pour enlèvement et séquestration. Je vais vous aider à raconter votre histoire aux policiers.
Partant de l'observation d'une personne de son entourage, dont le parcours est similaire à celui de l'héroïne relatée dans le film, Victoria Musier-Dlac aborde le milieu du travail en s'intéressant à la manière dont la fonction sociale impacte sur un individu qui ne semblait pas de prime abord fait pour le métier en question. Alors, c'est bien le cas de Nora, donc dans Première Affaire, jeune avocate fraîchement diplômée, propulsée sur le devant de la scène dès sa première affaire pénale plus que délicate. En effet, elle doit défendre un jeune homme accusé de viol et de meurtre, surtout qu'elle est appelée à la rescousse au dernier moment, un soir alors qu'elle pensait faire ses armes dans un univers beaucoup plus tranquille. Sa première garde à vue la met à rude épreuve, dans une position inconfortable. Elle se trouve dans l'impossibilité de mettre ses affects de côté, se laissant emporter par un humanisme et une fragilité naturelle face à un meurtrier potentiel et à un flic endurci et froid. Alors, de nature timide et un peu gauche, elle se confronte à la cruauté d'un système qui réfute de se laisser emporter par l'émotion. Alors, le professionnalisme garant de la réussite ne signifie pas forcément le choix le plus juste, mais le plus cartésien. Comme toute débutante, Nora multiplie les erreurs, doute de sa capacité à exercer son métier d'avocate, qui demande quand même pas mal de sacrifices, mais elle ne capitule pas. Naïve et scolaire, elle tombe aussi à pieds joints dans les deux pièges qui lui sont tendus. Alors d'abord en croyant sincèrement à l'innocence de son client, et ensuite en tombant amoureux du premier flic qu'elle rencontre, personnage ambigu et manipulateur.
Un corps a été retrouvé dans le champ des loges, là où t'étais. La garde à vue vient d'être requalifiée en homicide volontaire.
La garde à vue, l'instruction, les flics, du temps perdu et un paquet d'emmerdes.
C'est vous qui m'avez envoyé sur cette affaire. Je représentais un des suspects potentiels.
Impressionnant, vous paraissez si jeune.
Non mais Nora, t'as passé deux jours avec un criminel?
Le meilleur du film maintient dans le portrait très intelligemment dessiné de cette jeune femme qui voit dans le métier d'avocate une forme d'émancipation de son milieu social en tant que fille d'immigrée. Une ouverture au monde avant de se prendre en pleine face une réalité autrement plus violente. À travers elle, le film interroge la place de nos valeurs et de nos idéaux dans le cadre professionnel. Alors, thématique passionnante, finalement, peu abordée au cinéma. Noé Habitat, à révélation du très beau Ava, demeure l'attrait principal du film. Ses grands yeux expressifs, alors son corps frêle et sa voix fluette conviennent à merveille au personnage de Nora. Elle vampirise l'écran de la première à la dernière image, alors sans excès, avec un jeu très fin et sensible, évoluant subtilement sous nos yeux par petites touches. Elle est aussi très bien entourée par la formidable prestation de François Morel en avocat cynique, et puis d'Anders Danielsen Lee, ou Lai, je ne sais pas, en policier séducteur et moins intègre qu'il ne le paraît.
J'ai peur. S'il se prend 30 ans de prison à cause de moi.
Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien fait et des assassins en liberté, c'est comme ça.
On peut avoir des problèmes.
Fallait y penser avant.
La vérité du client, c'est la vérité. Faut se bouger un peu, la Nora, merde!
Maître?
Racontez-moi ce qui s'est passé.
La mise en scène, un classique mais précise, alors avec une préférence pour les plans fixes et les couleurs froides, sert efficacement un scénario plutôt habile. Alors on peut toujours regretter, hein, comme dans beaucoup de premiers films français, cette peur un peu maladive de se frotter avec le genre, alors judiciaire ici, hein, délaissant volontairement une intrigue relayée en arrière-plan pour se focaliser sur l'étude de comportement de son héroïne. Néanmoins, le petit coup de théâtre final surprend par sa lucidité et son réalisme que d'aucuns pourraient prendre pour de la cruauté. La petite Nora a grandi et puis a compris comment fonctionne un système, hein, sans avoir perdu de sa candeur. Une conclusion assez juste pour un joli coup d'essai, maîtrisé et sans trop de superflu, hein, justifiant la romance qui peut paraître inutile dans un premier temps, mais qui prend tout son sens à mi-parcours.
Première affaire pour un premier film, finalement.
Premier film, oui. Premier long métrage.
Voilà. C'est un film en salle depuis le 24 avril. Plongé dans un monde où il n'est pas possible de vivre au-delà de 50 ans. Voilà, nous sommes dans le Skydome en 2123.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinerama.
Oui, c'est bien mon avis.
N'oubliez pas, votre vie ne dure que 18 000 jours.
Lorsque la nourriture est venue à manquer à Budapest, nous avions déjà mis au point un nouveau système.
Votre corps est d'une valeur inestimable pour notre communauté. Profitez bien de vos dernières heures.
En fin d'année 2023, nous avions eu Mars Express, film d'animation de science-fiction français, épousant les codes du film noir et de l'enquête qui nous emmenait sur Mars sans pour autant oublier de nous parler de notre société. Un nouveau film d'animation épouse un scénario de science-fiction, Skydome 2123. Le titre original hongrois est Ciel en plastique. Alors ça n'aide pas mieux à comprendre de quoi il s'agit. Comme le titre l'indique, nous sommes en revanche, en 2123, nous faisons donc un bond de 100 ans. Dans ce futur, les climato-sceptiques avaient bien tort. Hein. L'humanité a pris une sacrée raclée. La catastrophe écologique a bien eu lieu. La sécheresse a eu raison de la végétation et même des animaux. La terre n'est que désolation. Les hommes à Budapest sont réfugiés sous un dôme de verre. Pour continuer à perpétuer l'espèce, un sacrifice est demandé. Alors toute personne qui arrive à 50 ans doit renoncer à vivre. Son corps est utilisé pour être transformé en arbre. Une graine est injectée dans le cœur avant que le corps soit emmené dans une vaste ferme où les feuilles sont récoltés pour être ensuite, j'imagine, écrasés, gélifiés et aromatisés, permettant de donner la béquée aux vivants. Un petit clin d'œil à Soleil Vert et ses biscuits.
C'est étrange d'avoir une partie de son être qui vit en dehors de soi. Juste un demi-frère. Et pourtant, c'est la moitié qui m'a permis de rester en vie.
Nora a fait une implantation volontaire. Je veux le nom de ton contact au générateur. Bon, c'est possible de le faire ou pas?
Et est-ce que t'en es capable?
Va se transformer.
Jamais.
Au granum, là-bas, ils pourront l'opérer.
À l'extérieur. Pourquoi tu veux nous aider?
Je ne crois pas que je trouverai un jour quelqu'un d'aussi déterminé, d'aussi fou pour tenter ce voyage.
Dans ce monde-là, dont on ne perçoit pas bien tout de suite les contours, le réalisateur s'intéresse à une femme qui fait le choix de donner son corps alors qu'elle a à peine 32 ans. Elle le cache à son mari. Celui-ci veut alors tout faire pour tirer sa femme de ce destin mortifère et alimentaire. S'engage alors un road movie teinté un court moment de thriller, car l'homme qui est psychiatre va prendre des risques pour approcher l'immense ferme où poussent ses arbres nourriciers. Et avec sa femme, il va accomplir un chemin qui va permettre au couple de mieux comprendre le monde dans lequel il se trouve plongé et aussi de mieux se comprendre.
Ça pourrait être le début d'une nouvelle évolution. Vous ne comprenez donc pas? Tout ce que la race humaine a créé disparaîtrait pour toujours.
Tout le monde veut avoir plus de temps. Vous n'en voulez pas ?
Les réalisateurs le confient, Skydome 2123 est une histoire d'amour. Les personnages principaux, Stéphane et Nora, ne sont pas des héros, ce sont des gens ordinaires qui ont dû faire face à un choix important. Donc, les réalisateurs n'ont pas voulu, à l'instar de nombreux films post-apocalyptiques, exonérer les hommes en laissant penser qu'ils pourraient renouer avec une humanité épanouie. C'est pourquoi, au bout de leur route, nos deux personnages vont chacun évoluer vers une fin qu'on n'aurait pas soupçonnée. Alors, il faut bien admettre que Skydome 2123 ne prend pas le même chemin que bon nombre de films sur le sujet. Alors, cela se ressent aussi sur le rythme du film. Nous découvrons peu de personnages, seulement ceux que le couple est amené à rencontrer. Autant dire que nous n'avons pas toutes les clés finalement de ce monde et ce qui domine, c'est ce qui relie les deux personnages de l'histoire. Leur choix va alors être déterminant. Le film nous amène tranquillement vers une fin qui interroge l'humanité et notre lien avec la nature. Parlons maintenant de la forme. La technique de l'animation repose sur de l'animation 2D et 3D, une forme hybride qui convoque également la présence de véritables acteurs dont le jeu a été transformé en animation. Alors cette partie-là est assez réussie, mais la partie 3D peut parfois paraître un peu indigente, comme un mauvais décor de jeu vidéo. J'ai vraiment eu cette impression. désagréable. Je pense notamment aux divers plans d'ensemble embrassant le monde extérieur au dôme. Mais passé cette déconvenue, Skydome 2123 se laisse agréablement regarder en gardant bien en vue que ce n'est pas l'action qui domine ce film de science-fiction, mais davantage la réflexion et l'émotion. Tu l'as vu, Manu, peut-être que tu peux dire deux mots ou trois.
Moi, j'ai trouvé ça plutôt plaisant et plutôt beau visuellement. J'ai pas été tellement gêné par l'animation. Hein. C'est un film qui a mis 7 ans en fait à être fait. Enfin, ils ont... Y a pas énormément de moyens, mais j'ai trouvé le film beau. Par contre, je trouve le scénario très convenu. C'est un scénario qui a été vu et revu, notamment dans la littérature. Je crois que j'avais lu un roman qui s'appelait pas un bonheur insoutenable, mais quelque chose comme ça, où il y avait cette même idée de après 40 ans en fait les gens de
oui,
mourir.
Oui. Voilà. Non, il y avait une série
il
aussi.
Il y avait en fait c'est quelque chose d'assez fréquent.
La base aussi fait penser à l'âge de cristal où oui. Tout le monde meurt à 30 ans en fait.
Oui, ouais. Tout à fait. Donc nous parlions de Skydome 2123 en salle depuis le 24 avril, la dernière soirée de l'été d'une bande de jeunes de 18 ans. Nous parlons de Lille.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Damien Manivelle est un cinéaste très attachant, auteur de petits films fragiles mais au charme indéniable, hein, sous la double influence d'Éric Rohmer et Hong Sang-soo, comme Un jeune poète, hein, qui a été tourné à Sept, ou encore Le Parc. Il a aussi co-réalisé un très beau film sur l'enfance au Japon, Takara, la nuit où j'ai nagé, puis signé Les Remarqués, Les enfants d'Isadora et Magdala. Il revient avec un projet casse-gueule et un peu à la mode dans le sacro-saint cinéma d'auteur, hein, mêlant fiction et documentaire au sein même d'un même récit. Alors avec Lille, hein, Damien Manivelle tente d'articuler une fiction sur une bande d'adolescents en vacances en Bretagne et un documentaire sur le processus même de fabrication du long métrage, au point de brouiller les pistes, de laisser le spectateur choisir ce qui appartient à la réalité ou non. Le relatif intérêt du film est de matérialiser ce que le spectateur suppute en regardant un film, c'est-à-dire ce qu'il imagine pendant le tournage, la direction d'acteur, les prises de vue, les relations entre les gens, que nous pouvons parfois entrevoir dans les making-of qui ne sont pas à visée promotionnelle.
No sé que tienen las flores. Llorona las flores.
Ah, super. Et là, tu récupères ?
Lille dresse le portrait d'une jeune fille, Rosa, 18 ans, qui, lors de la dernière soirée d'été, doit faire ses adieux à ses amis avant de partir à Montréal pour ses études. Mais passer la curiosité et une certaine habileté hein, dans le montage, entre les séquences de répétition abstraites et l'authenticité de la fête à la plage, le film déçoit par son côté, alors assumé, pourtant inachevé. Il révèle aussi certains tics pénibles, comme la caméra porte à la main, la photo floue et la prise de son approximative, comme garant de « au plus près du réel ». Les jeunes comédiens alors, sont très bien, hein, mais ce qu'ils ont à dire, en partie improvisé, n'est pas très intéressant. La démarche est sans doute sincère, hein, mais le film, pourtant très court, finit par s'effriter, donc lassé en dépit donc, de sa durée. Hein. Un faux pas, à mon avis, qui n'a rien d'alarmant pour Damien Manivelle, qui aime bien aussi se remettre en question d'un film à l'autre, dans une économie de cinéma assez réduite. Et puis c'est toujours mieux qu'un film au sujet similaire, hein, dont je vais parler dans quelques semaines, qui a exactement le même sujet, mais qui est bien plus mauvais.
On t'écoutera attentivement. Lille, ce film est en salle depuis le 17 avril. La vie de deux enfants qui ont vécu seuls pendant 7 ans sans contact avec la civilisation dans la forêt. Nous parlons de frères maintenant.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama, Cinérama,
parfaitement au
Cinérama.
Point et incapables de nous tromper.
Allô ?
Patrice, avec toi ? J'ai un mauvais pressentiment. C'est comme s'il avait disparu.
Dis-le-moi si tu sais quelque chose.
Il a pris son passeport ?
Il a dû le prendre.
Je crois que j'ai toujours redouté que ce moment arrive un jour.
Le film d'Olivier Cazaz, Frères, est inspiré d'une histoire vraie, l'histoire assez incroyable de deux frères, Michel et Patrice de Robert de la Frégère. Deux enfants de 5 et 7 ans, abandonnés en 1948 en Charente-Maritime par leur mère, dans un home d'enfants, un centre de vacances qui les accueillait pour l'été, saison à l'issue de laquelle leur mère ne revient pas les chercher. Séparés de leur famille comme des centaines de milliers d'enfants, dont l'après-guerre en Europe, hein, nous rappelle le générique du film, la particularité de Michel et Patrice, c'est que suite à un accident dans le centre qui continuait de les garder, ils vont fuir pour se réfugier dans les bois où ils vont vivre, coupés du monde pendant 7 ans. L'un chasse, pêche, cueille, pendant que l'autre construit des cabanes pour les abriter.
C'est étrange d'avoir une partie de son être qui vit en dehors de soi. Juste un demi-frère. Et pourtant, c'est la moitié qui m'a permis de rester en vie et de dépasser mes 6 ans.
Ah, j'ai faim.
trois duos de frères se passent le flambeau à l'écran avec une version enfant, une version ado et à l'âge adulte, les taiseux Yvan Attal qui incarne Michel ou Mick et Mathieu Kassovitz qui est Patrice ou Pat. À l'âge adulte, Michel qui construisait les cabanes est devenu architecte, il a une famille, quant à Patrice, l'aîné qui s'occupait de son petit frère, il est chef de clinique et en couple. Le point de départ du récit de leur histoire, c'est la disparition de Patrice au présent qui va entraîner la disparition de Michel qui quitte femme, travail et enfant pour retrouver son frère au Canada et fait donc écho à cette enfance disparue car tue. Personne dans leur entourage n'est au courant de ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire une enfance à se dissimuler, à disparaître tous les deux dans une fusion fraternelle et avec la nature. La voix off de Michel, donc celle d'Yvan Attal, nous accompagne en narrateur pour restituer les grands moments de cette enfance insolite, éprouvante mais libre et idéalisée. Ainsi, à l'instar des bois dans lesquels évoluent les deux frères, le bois de leur enfance et cette forêt hivernale canadienne dans laquelle ils se retrouvent, la mise en scène n'est pas linéaire mais organique. La temporalité y est entremêlée et fait se succéder différentes strates de vie du passé. Le tout est souvent construit sur un principe de flashback sensoriel où les souvenirs sont convoqués grâce à des éléments du présent, le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les feuilles qui arrivent aux oreilles d'Yvan Attal, la sensation du froid mordant qui s'empare de Mathieu Kassovitz. Tout est propice à soutenir le discours narratif.
T'es venu ici pour mourir ?
Il y a pire, non ?
Tu serais parti sans me dire au revoir.
Tant que t'es là, on le saura jamais.
Depuis qu'on est parti de cette cabane, plus rien n'a de saveur. Je crois après quelque chose qui reviendra pas. C'était nos meilleures années. On a commencé par la fin. On a commencé par le meilleur.
Loin des biais comiques employés dans son premier long métrage Babyphone, Olivier Cazaz trame avec frère le dessin d'un drame. Pour ce faire, il joue d'une mise en scène nerveuse avec caméra à l'épaule et raréfie les dialogues au profit d'outils tels que la musique, sur laquelle il a participé à la composition et à l'interprétation. Elle est souvent juste, mais devient parfois tonitruante et écrasante. Avec ce genre de tour de passe-passe, le film réussit quand même à tirer une ou deux larmichettes, pour peu qu'on soit un peu sensible aux accords de piano et aux instruments à cordes, ou que le sujet du souvenir traumatique réprimé et des secrets de famille touche d'un peu trop près. Je m'en suis un peu voulu de lui accorder deux gouttes de mon précieux stock lacrymal parce que les ressorts en fait utilisés pour convoquer notre empathie et notre émotion en tant que spectateur sont grossiers et faciles. Le film tombe en fait très vite dans le pathos, il s'enlise dans une lourdeur et des répétitions, hein, comme les scènes de jeu entre les enfants répétées un nombre incalculable de fois. Et il peine vraiment à décoller. L'absence de véritable dialogue provoque souvent un malaise lorsque les personnages ouvrent enfin la bouche. Il est bien sûr crédible, hein, pour un enfant sauvage tel que celui de Truffaut de ne pas faire beaucoup recours aux verbes, donc on ne s'attend pas à ce que les déclinaisons enfants de Mick et Pat soient des orateurs prolixes, encore moins lorsqu'ils sont ados, hein, après avoir vécu seuls pendant 7 ans. Il est alors peu probable qu'ils aient un vocabulaire très riche et des échanges nuancés. Et puis on pourrait se dire d'ailleurs que même des décennies plus tard, ils gardent entre eux, dans ce lien puissant et indéfectible, une manière de s'exprimer sobre et directe, ce qui pourrait expliquer le côté un peu brut et déclamatoire des échanges entre Yvan Attal et Mathieu Kassovitz dans leur cabane au Canada. Ce sont un peu des monuments du cinéma français, donc on n'a pas envie de se dire qu'ils sont mauvais acteurs. Mais voilà, quand c'est l'entourage de Michel adulte qui prend la parole pour lui reprocher de disparaître, les dialogues s'affichent clairement comme mal écrits et gênants, de quoi faire grincer les dents. Pour finir sur une touche positive, ce que le film évite heureusement par chance, c'est de ne pas spécialement porter de jugement sur la mère abandonnique, hein, incarnée par Alma Jodorowsky. Issue d'une bonne famille, indépendante, elle veut vivre sa vie sans s'encombrer de ses enfants conçus hors mariage, donc non désirés, à une époque où il n'y avait pas de contraception. Le film ne lui fait pas de procès, même si elle est au final plusieurs fois la source des souffrances des deux frères et à l'origine de leur séparation. Manu, toi qui l'as vu, tu aimerais peut-être aussi en dire un mot ?
Je serais moins gentil que toi. Moi, je trouve que ce film, c'est vraiment un enfer. Un enfer de mise en scène, de les ralentis, des enfants qui courent au ralenti dans les champs. Enfin,
plusieurs fois.
La musique qui est d'une lourdeur absolue. Et puis les dialogues, c'est pas possible. Et j'ai rarement trouvé les deux comédiens aussi mauvais que dans ce film. Enfin, moi, rien n'a marché. Alors que l'histoire est quand même intéressante. Et je pense qu'ils auraient dû se focaliser uniquement sur l'histoire des deux enfants. Mmh. C'est tout. Adulte, là, il n'y a rien qui fonctionne, mais rien.
Ce film, Frère, en salle depuis le 24 avril, nous donne l'occasion de jouer un blind test autour de la filmographie de Mathieu Kassovitz. 5 extraits écoutés, voici le premier.
Alors, quoi, ces initiales ?
Mais on s'en fout de ces initiales. Bon, tu arrives avec ton casque sur la tête, tu sors de l'ascenseur.
Quel casque ?
Mais un casque de moto, comme tous les coursiers. Il attend des fleurs, toi tu apportes les fleurs, alors t'as un casque, c'est réglé comme ça. Hein ?
Ok, d'accord.
Bon, tu sonnes ?
Je sonne.
Il te regarde par le judas, toi, tu prends l'air de rien, tu...
Je regarde Paillasson avec les initiales.
Tu regardes ce que tu veux, mais tu paniques pas, hein, paniques pas.
Non, je panique pas.
S'il te demande qu'est-ce que c'est, tu dis c'est pour les fleurs.
Ok.
Hein? D'accord. Alors dis-le.
Quoi?
C'est pour les fleurs.
C'est pour les fleurs.
Plus fort, là il t'entend pas.
C'est pour les fleurs.
Plus fort.
C'est pour les fleurs.
Qu'est-ce que c'est?
C'est pour les fleurs.
Ascenseur?
À droite.
Étage?
8e.
Appartement?
À gauche.
Qu'est-ce que c'est?
C'est pour les fleurs.
Trouvé, Manu.
C'est donc Regarde les hommes tombés de Jacques Audiard.
Oui, on entend Kassovitz un tout petit peu, hein, parce que la difficulté pour faire ce blind test, c'est quand même d'entendre Kassovitz, parce que dans de nombreux films, il parle peu. Film réalisé par Jacques Audiard en 1994, Johnny, un jeune paumé, suit Marx, un escroc sur le déclin, tandis que Simon Hirsch, un représentant de commerce, cherche à venger un inspecteur de police qui s'est fait tirer dessus au cours d'une enquête plusieurs Césars, dont le meilleur jeune espoir masculin pour Mathieu Kassovitz. Deuxième extrait de ce blind test.
Lève-toi ! Allez ! Toi aussi, lève-toi ! JP, que rien leur arrive !
Ça va, il est pas chargé, Philippe.
Tu te fous de ma gueule ! C'est quoi la différence pour lui ? Quand il va rentrer, il va dire à son frère que t'as essayé de le tuer. Il va se venger dans un an ou dans 10 ans. Vous faites quoi?
Philippe, il revenait sûrement de la grotte, on leur a fait un peu peur, c'est...
Et alors? Ça justifie ça? C'est de la torture, ça! On fait pas ça, nous! Pas nous! On tombe pas dans le piège! On tombe pas dans ce piège!
Trouvé.
C'est l'ordre et la morale de lui-même.
Et oui, de lui-même, en sorti en 2011, adaptation libre d'un livre, La morale et l'action, d'un capitaine du GIGN lors de la prise d'otage d'Ouvéa, que le film donc met en scène, et sur l'ouvrage collectif Enquête sur Ouvéa. Troisième extrait de ce blind test consacré à la filmographie de Mathieu Kassovitz.
Mais depuis un an, je ne sais pas pourquoi, elle décide qu'elle veut une maison. Donc on passe de nomade à semi-nomade, et maintenant il faut une maison pour madame.
J'en pouvais plus.
T'en pouvais plus de quoi?
De marcher dans la boue toute la journée, toute cette misère.
Marcher dans la boue, quelle misère! Il fait 25 degrés dans chaque caravane, il n'y a aucun problème.
Les enfants mangent pas leur faim tous les jours.
Mais les enfants sont très bien nourris, ils sont... vous avez qu'à demander à...
Ils ont des carences terribles.
Ah bon? Vous avez qu'à demander à leur grand-père, c'est un médecin, c'est lui qui les suit.
J'en ai marre, je veux que mes garçons aillent à l'école.
Où ça? Mais l'école à la maison, c'est l'école.
Si on continue comme ça, ils n'auront aucun avenir.
Quel avenir? Entre un supermarché et une autoroute? Ça, c'est un avenir.
D'accord.
C'est ça que tu veux, l'avenir que tu leur donnes.
De toute façon, il n'y a pas de discussion possible.
C'est ça.
Et c'est trouvé.
Et c'est La vie sauvage de Cédric Kahn.
Oui, film de 2014. C'est pas des enfants sauvages, mais en tout cas, c'est un père qui retire des enfants, ses 12 enfants, à la mer et qui va vivre dans des communautés. Alors, pour ce quatrième extrait, on va pas entendre vraiment Mathieu Kassovitz. Il va juste dire une petite phrase. Mais comme ça parle beaucoup de cinéma, j'ai pris cet extrait.
Un père qui retrouve son fils... Aïe à la forêt d'Émeraude, John Boorman. Le fils est enlevé par des Indiens d'Amazonie. Et il est seul dans la forêt, puis son père finit. Non. Il y a Missing de Costa Gavras.
Qui?
Missing de Costa Gavras. Mais il le retrouve mort. Ah bah sinon, il y a Superman 1. La première version, Richard Donner. Vous l'avez certainement déjà vu, non?
Non.
Ah bah c'est superbe ça. Marlon Brando. Gene Hackman, la naissance, les retrouvailles, c'est magnifique.
Alors, un personnage qui n'avait pas vu Superman, c'est un agent immobilier qui mène une existence plutôt morne, qui a l'habitude de se grimer.
Un illustre inconnu.
Voilà, il croise des personnes et voilà, il prend leur apparence.
Je l'ai vu.
Sauf à un moment, il se fait complètement happer par ça. Un illustre inconnu, donc, de Mathieu Delaporte, sorti en 2014. Dernier extrait de ce blind test.
Il est informé des persécutions faites aux catholiques.
Qu'il s'informe auprès des catholiques persécutés du sort fait aux juifs et aux gitans.
Les gitans se déplacent sans cesse.
On déplace beaucoup les juifs aussi. Pourquoi le pape ne se demande-t-il pas où vont tous ces déportés?
Monsieur Gerstein, ni le pape, ni mon père, qui lui est proche, n'ont beaucoup d'estime pour monsieur Hitler. Mais ils reconnaissent qu'il a réussi ce qu'avant lui personne n'avait osé, personne. Vaincre le communisme. En Allemagne, et maintenant en Russie. Et cet homme qui n'a pas notre estime est devenu un mythe.
Ah, c'était trop facile.
Amen.
Ouais. De Costa Gavras, sorti en 2002, adapté de la pièce de théâtre Le Vicaire, critiquant l'inaction du pape Pie XII durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier à l'égard des Juifs. Ainsi s'achève ce blind test consacré à la filmographie de Mathieu Kassovitz. Sur une île grecque, une guide touristique américaine s'intéresse à Jacqueline, victime d'un traumatisme enfoui. Nous parlons de L'Échappée.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Quelques mois à peine après Un hiver à Ganji, hein, revoilà Anthony Chen qui revient déjà sur nos écrans avec L'échappée ou Drift en VO. Donc Exit Ganji, hein, Bonjour la Grèce, hein, où on y suit les aventures de Jacqueline, hein, une femme en provenance du Libéria qui arpente les rues et les ruines de l'antique cité. Alors bien loin de chez elle, elle semble perdue et déambule tel un fantôme, hein, à la recherche d'elle-même. C'est quelque part bel et bien le cas, car, et cela nous est montré d'emblée, hein, Jacqueline a fui son pays d'origine et tente tant bien que mal de survivre de l'autre côté de la mer, hantée par la dureté de sa situation et la dureté de ce qu'elle a vécu. C'est l'occasion de confronter plusieurs cultures au sein d'un film à la thématique en partie d'actualité, mais qui va tenter une approche un petit peu différente.
I'm Callie.
Jacqueline.
Don't look at my face.
You're not Greek.
No, American. When it's all over, you might... Where are you from?
Liberia.
La production du film est elle-même un parfait exemple de multiculturalisme qui a permis à cette histoire de nous parvenir. Alors derrière le réalisateur Anthony Chen, qui est singapourien, le film a pas moins de 4 nationalités, française, grecque, anglaise et américaine. Alors le titre français de L'échappée souligne quant à lui plus le côté européen du film d'une certaine manière. Parce que dans ce mot, il y a une saveur rimbaldienne, car on pense à ces célèbres vers de l'éternité. Elle est retrouvée, quoi ? L'éternité, c'est la mer allée avec le soleil. Alors cela illustre parfaitement le décor grec du film, et les cadres qui s'ouvrent ou panotent quasiment toujours sur de splendides vues sur la mer, chose qui n'a pas échappé à Jean-Luc Godard pour citer le même poème à la fin de Pierrot le Fou. En version originale, le film s'appelle Drift, ce qui signifie à la dérive et pas forcément que par rapport à l'eau. Alors certes, on comprend que le personnage de Jacqueline s'est échoué sur cette magnifique île grecque, mais la dérive symbolise également la dérive mentale, en plus que celle physique de son personnage qui a tout perdu et va essayer de se chercher et de se trouver alors qu'elle est désormais une totale étrangère aux yeux des autres comme à elle-même. Alors le sentiment dérive, de perdition, Anthony Chen le met subtilement en scène, mais met peut-être un peu trop de gants pour traiter d'un sujet grave qui nécessite probablement plus de viscéralité pour convaincre pleinement. Alors en l'état, L'échappée ne surprend jamais et peut donc très vite barber son audience. On ne sera pas surpris d'apprendre qu'avec un tel sujet, le film a été bien vu au festival de Sundance. Et si on voulait être un peu mauvaise langue, un petit peu plus, on pourrait se dire que c'est un projet piloté exprès pour ce genre de festival, car son actrice principale, Cynthia Erivo, en est la coproductrice. Alors consciente du potentiel de ce genre de scénario pour des récompenses à statuettes, elle aura à coup sûr fait de ce sujet une priorité entre deux gros films dans lesquels elle se noie un peu, comme le sinistre Pinocchio de Robert Zemeckis ou l'adaptation à venir de la pièce à succès Wicked, qui n'a pas l'air mieux loti. Alors sans être un mauvais film, L'échappée n'échappera sans doute pas à la même destinée que ces deux films, à savoir l'oubli éternel après un petit intérêt poli de la part d'un public de niche. Il aurait pourtant eu plus à offrir avec un tel sujet, même si rien n'est honnêtement déshonorant. Alors plutôt que d'essayer de créer un faux suspense sur ce qui a traumatisé Jacqueline, au point de devoir fuir tout ce qu'elle possédait et aimait, il y aurait probablement eu mieux et bien mieux à faire sur l'amitié fragile mais sincère qui se développe entre son personnage et celui d'une guide touristique, elle aussi femme seule et délaissée au milieu d'une histoire millénaire faite d'empires qui chutent et de tragédies familiales. C'est d'ailleurs le grand plaisir du film, celui de retrouver Alia Chakwat dans ce joli petit rôle, une actrice souvent de second plan mais qui arrive toujours à capter la lumière de façon originale. Elle était dans la troupe rock'n'roll féministe du très chouette biopic sur les Runaways de Florida Sigismondis. Elle était la compagne de Blaze dans l'émouvant petit film éponyme d'Ethan Hawke et tenait aussi compagnie à Pee-wee dans Pee-wee Big Holidays, le troisième film de la saga délirante tournant autour du personnage créé par feu Paul Rubens, produit par Netflix, et je parie que vous n'étiez même pas au courant de l'existence de ce dernier. Alors suivant votre humeur du jour, vous pourrez donc aller rire avec elle en streaming ou aller verser une petite larme en salle.
Pour aller voir donc L'échappée en salle depuis le 24 avril.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine pour parler encore de cinéma. Chacun un film. Toi, Sophia, ce sera
Borderline.
Et toi, un livre, Guillaume.
Et oui, moi, je vais vous parler du très grand Jean-Marie Poiret qui vient tout juste de sortir son autobiographie Rire est une fête.
Et puis toi, Manu, deux films.
Ce sera L'ombre du feu, le dernier film de Tsukamoto, et Le déserteur.
Et quant à moi, j'aurais vu The Fall Guy et un petit truc en plus. À la semaine prochaine.